Bonjour et bienvenue. À partir d'aujourd'hui, je vais vous présenter cette série qui vous dévoile les archives inédites pour la plupart et qui vous raconte la grande histoire du rire francophone. Les archives du rire, c'est un petit peu comme un grand coffre dans lequel on a conservé petit à petit, année après année, des enregistrements, des rencontres avec des humoristes de toute la francophonie, de la Suisse à Québec et de l'Afrique francophone à la Belgique en passant par la France bien sûr. Des faiseurs de gags, des hommes de plume, des journalistes aussi et des gens très proches des plus grands humoristes. Les archives sont nombreuses, plus de 30 ans d'interviews, de spectacles, d'articles, sur des supports divers, du papier à la bande magnétique et du 33 tours au CD. Voici donc les Archives du Rire, un voyage inédit dans le monde de l'humour francophone. Alors on va commencer notre voyage par les cabarets de la rive gauche à Paris. Après la guerre, ces lieux sont des scènes ouvertes pour des jeunes comédiens comiques qui vont faire leurs premières armes face au public. On y voit Pierre Richard, Victor Lanoux, Jean Poiret, Michel Serrault, Bourville et beaucoup d'autres.
Les archives du rire.
Le premier à s'exprimer dans cette émission, c'est Robert Malla, journaliste. Lui, à partir des années 50, il va rencontrer tous ces comédiens, il voit leurs spectacles et écrit régulièrement dans Le Point. En 1997, Robert Malla sort un livre, Coluche, Devos et les autres, un demi-siècle de rire français aux éditions de l'Archipel. Robert Malla est un formidable puits de connaissances que je vais rencontrer à Paris le 13 novembre 1997.
En réunissant tous mes papiers du Point, j'ai été 20 ans au Point comme critique et comme journaliste de variété et de spectacle, que je me suis rendu compte que j'étais passé complètement à côté d'un phénomène, c'est-à-dire que dans les années après la libération, est née une sorte d'humour qui n'existait pas, parce qu'on ne peut pas parler d'humour en ce qui concerne les chansonniers, c'était tout à fait différent. Et je suis passé à côté du phénomène, je faisais des papiers sur les humoristes que je voyais au cabaret, puis dans les cafés-théâtres, sans me rendre compte que c'était quelque chose de nouveau, et que nous arrivons à un demi-siècle de cet humour-là, en espérant qu'il y aura un autre demi-siècle et plein d'autres siècles derrière.
Allez, on va ouvrir le rideau. Nous sommes en 1951. Raymond Devos, il monte sur scène avec un complice, Robert Verbeckey, et ils interprètent ensemble quelques chansons drôles.
Oh my darling, Clementine.
Voici my darling Clementine.
Ah, my darling Clementine.
No, Tine.
Tine.
Clementine, yeah.
Tine.
Tine.
Yes, sir.
Go on, music. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Mais non, pas toi. Like she was, I like a fairy.
Et dans l'une des salles parisiennes, ça peut être l'ABC ou le Théâtre des Trois Baudets, Robert Malla découvre Raymond Devos à ses débuts.
Je crois que j'ai mis les pieds dans un cabaret de la rive gauche au début des années 50, vers les années 50, et que il me semble que le premier que j'ai vu était Raymond Devos. Et Raymond Devos, pas dans son numéro, enfin dans son système Devos, mais Raymond Devos dans un duo qui s'appelait Les Pinsons avec André Verbeck. Et il y avait dans ce duo cette folie de Devos. Il chantait My Darling Clementine, qui est un vieux standard du Far West américain. Une chanson donc qui s'appelait My Darling Clementine. Et Devos mettait en fureur Verbeck en disant non pas Clementine, mais Clémentine.
I was no swimmer, so I lost.
Ah, Clémentine.
Clémentine. Oh, my darling.
Clémentine.
Oh, my darling.
Clémentine.
Oh, my darling.
Ah, non, Clémentine.
No, Clémentine.
Tintin.
Thou art lost and gone forever. Grateful sorry.
C'est la chanson du laboureur.
C'est fini, oui.
Oui, c'est terminé.
Allez, hop. Clémentine. Oh, you.
Navré pour cet ivrogne, c'était my darling Clémentine.
Time! Time, yes, I know!
Clémentine avec Raymond Devos et Robert Verbeek, les Pinsons en 1951 au Théâtre des Trois Baudets, un théâtre dont on parlera encore avec Jacques Canetti. Les années 50, c'est donc l'explosion des cabarets rive gauche. Robert Malat.
Je crois que le premier cabaret dit rive gauche est né sur la rive droite et que c'était Agnès Capri qui l'avait créé. Mais subitement, on voit arriver une foule en général de comédiens. Ce sont des comédiens qui avaient besoin de cachetonner et qui avaient de l'humour à revendre, l'humour qu'ils utilisaient entre eux. Ils l'ont projeté sur la scène. Alors, la scène, c'était la scène de la Galerie 55, c'était la scène de l'échelle de Jacob, qui était rue Jacob, et c'était la scène, surtout, enfin, je ne vais pas dévaloriser les autres, surtout de l'Écluse, qui était tenue par Léo Noël, enfin, ils étaient trois associés. Et j'ai l'impression que tous les humoristes, tous les... On n'appelait pas ça encore les humoristes. Hein. Ils faisaient des numéros qui n'excédaient pas un quart d'heure. Et on y a vu tout le monde. J'ai vu les frères ennemis qui étaient... Alors ça, c'était les rois du calembour. Parce que quand on fait un calembour comme celui des frères ennemis dans les appels téléphoniques, c'est Vrignot qui dit à Gaillard « Allô, comment ça va ?» Et l'autre lui fait « Ça va mal. »« Ah bon, pourquoi ?»« Parce que j'ai 21 personnes à dîner. »« Ah bon, qui ça ?» Lady Chatterley et Léon Zitrone. Bon, c'est vrai qu'on ne comprenait pas tout de suite, mais on rigolait.
Allô, Napoléon ?
Ouais ?
C'est Marie-Louise ?
Oui, alors ?
Je te souhaite une bonne fête.
C'est pour la Saint-Napoléon ?
Non, mais c'est la Sainte-Hélène.
Allô, pourrais-je parler à Monsieur Debussy, s'il vous plaît ?
La part de qui ?
La part de sa mère.
C'est vague. Allô, Mademoiselle d'Arc ?
Oui, qui cause ?
Devinez !
Saint-Georges.
Vous brûlez !
Déjà ? Allô, Monsieur Cro-Magnon ?
C'est lui-même !
Dites donc, ça n'a pas l'air d'aller.
J'ai une caverne !
Bah, les frères ennemis, une histoire absolument incroyable de ce duo comique qui connaît un succès énorme jusqu'à ce fameux 1er novembre 1984, jour où Teddy Vrignot disparaît sans donner d'adresse. Son évaporation est aussi illogique que certains de nos sketchs, écrit André Gaillard, son complice, qui fait paraître un livre sur leur histoire en mai 1985 aux éditions Michel Lafon. Je vais rencontrer André Gaillard en février 1992 au caveau de la République à Paris. Il me raconte sa rencontre avec Teddy Vrignot.
Au service militaire, en Allemagne, dans les chasseurs d'Afrique, on était. Ah oui. On s'est rencontrés en 49. Et puis, puis on s'est retrouvés à Paris après. Déjà, on s'était lié d'amitié au service militaire. On était à l'école de sous-officiers, tous les deux. Mais on s'est rencontrés en Allemagne, et puis après, lui a été libéré avant moi. On s'est retrouvés après sur les Champs-Élysées, il faisait un Indien. Il était déguisé en Indien devant le cinéma Normandie. Il distribuait des prospectus, c'était les tuniques rouges avec Victor Mature. Alors il distribuait des prospectus, il était torse nu, hein, en Indien. Alors là, je lui ai demandé ce qu'il devenait, etc. Il suivait des cours de théâtre, alors je suis allé avec lui, j'ai repris des cours de théâtre, car j'avais suivi des cours de théâtre étant étudiant, oui. À l'insu de mes parents, parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse de théâtre, bien entendu. Et parce que j'ai fait une école de décoration après. Et alors, on a suivi des cours de théâtre pendant un certain temps, et puis comme on s'est aperçu que c'était très difficile, le débouché dans le théâtre n'était déjà pas facile à l'époque, alors on a décidé de monter un numéro de cabaret, car c'était la grande mode. Il y avait les cabarets de la rive gauche à Paris qui ont été les propulseurs de tas d'artistes, de Mime Marceau, Barbara, Brel, Brassens, Voyage d'Avour, Bécourt, on peut faire une liste qui n'en finit pas. Voyez,
allô, Amiral Dolnitz ?
Ja ?
Dis donc, notre bateau, c'est un cuirassé ou un sous-marin ?
Un cuirassé ?
Alors on goule.
Les cabarets ont disparu, c'est dommage parce que les cafés-théâtres n'ont pas apporté ce que les cabarets ont apporté. Par spectacle, vous aviez 6 à 8 numéros. On demandait à un débutant de faire 3 chances, de chanter 3 chansons ou de dire 3 sketchs, mais on ne lui demandait pas de faire une heure. Par exemple, il y avait un cabaret qui s'appelait l'échelle de Jacob. Il y a eu au même programme, il y avait Bécaud, Aznavour, Brel, et puis d'autres encore, j'oublie les noms. Bon, il est évident que quand on... qu'il fallait réunir des personnages comme ça, évidemment, maintenant, c'est... Non, puis c'était une époque où il y avait le vrai musical, enfin, le musical, parce qu'il n'y avait plus rien. Il y avait une première partie avec des visuels, des parlers, des chantés, mais la vedette faisait la seconde partie, et quelquefois, elle ne faisait pas entièrement la seconde partie, il y avait un numéro avant elle.
Les archives du rire.
Il y avait aussi Poiré et Serrault. Il y avait Darras et Noiré, il y avait Richard et Lanoux, il y avait Avron et Évrard. Quand vous avez déjà vu tous ces gens-là, vous avez passé une soirée de rire.
Robert Malat vient de les citer à l'instant, Pierre Richard et Victor Lanoux, ensemble, dans un de leurs sketchs, dans les années 60, intitulé « L'allumette ».
Pardon, monsieur, vous n'auriez pas une allumette, s'il vous plaît?
Une allumette?
Oui,
certainement, monsieur. Attendez, je crois que j'en ai une dans la poche du bas. Attendez, pardon. Non, dans la poche du haut. Non plus, qu'est-ce qui se passe? Je suis pourtant sûr. Regardez, vous me permettez. Je suis pourtant sûr d'en avoir une, parce que... Attendez, ah bah voilà. Ah bah c'est un cure-dent.
Ça va très bien, ça va très
non,
bien.
Non, bougez pas, je vais vous la retrouver, c'est parce que je vais vous dire, ça n'est pas ma veste de tous les jours.
Non, c'est pas votre veste de tous les jours.
Attendez, pardon.
Vous permettez. Victor Lanoux nous raconte son duo avec Pierre Richard.
Oui, je fais le kebab pendant 4 ans ou 5 ans avec un partenaire qui s'appelle Pierre Richard, qui sévit toujours sur les écrans français et ailleurs.
Ah bah c'est un cure-dent.
Non, ça va très bien.
Non, gardez ça, je vais vous dire, c'est idiot, mais c'est parce que c'est Steiner, vous comprenez. J'avais dit de faire une poche là, il a fait là, j'en dis pas faire une ici, il a fait là, vous savez ce que c'est.
C'est qui écrivait ces sketchs?
Eh bien, chacun notre tour, on écrivait séparément des sketchs et on les jouait. Jamais ensemble, toujours séparément.
Je l'ai retrouvé, ça m'énerve, vous comprenez. On met des choses à leur place, mais alors après, madame, vous pouvez tout. Qu'est-ce que c'est que ça?
Quelques années plus tard, le duo comique va donc se séparer. Les deux comédiens sont appelés, entre autres, par le cinéma. Une rupture tout à fait normale, comme le souligne ici Pierre Richard, rencontré à Fribourg en septembre 1992.
Parce que ça, c'est les aléas de la vie. Puis de toute façon, c'est vrai que peut-être de faire un numéro de cabaret à deux, donc en couple, pendant 5 ans, 10, même 10 ans, c'est amusant. De le faire pendant 30 ans, ça deviendrait un vieux couple fatigué, rassis, qui ne trouverait pas toujours des choses nouvelles. C'est une étape extraordinaire de faire un numéro de cabaret, c'est ce que j'avais avec Victor, comme l'a fait Poiré et Serrault, même Poiré et Serrault se sont séparés aussi. Ils se sont retrouvés dans d'autres circonstances. Mais des couples comiques qui durent 30 ans, ça n'existe pas. Si on avait fait ça pendant 30 ans, ça aurait été triste. Alors on serait devenus des fonctionnaires.
Les cabarets Rive Gauche accueillent donc de jeunes talents qui sont comédiens avant d'être comiques. Et à l'échelle de Jacob, on découvre Jacques Dufilot et puis l'humour déjà mordant de Jean-Yann.
Jean-Yann et Dufilot exploraient des terrains que n'exploraient pas les autres. Jean-Yann, c'était l'imprécation, c'était la satire, il crachait littéralement sur la religion, sur le pape, il se foutait du prolétariat. Quant à Dufilot, c'était un tour plutôt paysan, plutôt matois. Il avait la visite du château qui est resté célèbre.
Jean-Yann crée des sketchs, bien sûr, il chante aussi sous le nom de Johnny Rockefeller.
Depuis que je suis sur la terre, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je fais un mauvais sans en fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, je suis anémié, l'estomac à bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine. Oh mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Oh mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Après la guerre, après l'humour de Pierre Dac, eh bien la vie évolue et l'humour change. On reconstruit une société et l'humour connaît quelques révolutions. Robert Malat.
Avant la guerre, il y a eu donc le papa ou le grand-père qui s'appelait Pierre Dac, qui a révolutionné le langage de l'humour. C'est vrai qu'il a apporté quelque chose qui n'existait pas avant lui. Mais avec... la libération, donc le besoin de respirer, le besoin de rire, c'est l'humour dévie, et il dévie vers des problèmes de société qu'abordent donc les gens des cabarets. Ça, ça dure jusqu'en dans les années 65-68. Quelque chose change en France. La jeunesse réclame autre chose. Et ça se manifeste dans l'extinction des feux dans les cabarets et la naissance de nouveaux lieux de spectacle qui s'appellent les cafés-théâtres. Et là, c'est encore une nouvelle génération qui efface la précédente. Il faut dire que la précédente génération, celle des Poiret-Serrault, d'Arassé-Noiret, Dufilot, Jean-Yann, s'est très vite reconvertie vers le cinéma. Pourquoi ? D'abord parce que, dites-vous bien, qu'on était payé 50 francs pour un numéro de 4, un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, parce que pourquoi ne pas céder au mirage du cinéma ? Tout le monde y a cédé, tout le monde y cédera. C'est comme ça, c'est la vie qui décide. Voilà, Louis Malle vient voir un jour Noiret à l'Écluse et puis lui propose le principal rôle de Zazie dans le métro. Mmh. Puis c'est tout, c'est comme ça que se décident les carrières. Alors, notre nouvelle génération qui démarre dans les cafés-théâtres, elle a un personnage qui s'appelle Coluche. Et voilà parti Coluche pour une carrière fabuleuse. Qui s'arrêtera, on s'en souvient, en juin 86.
Je me marre. Tout le monde se plaint maintenant. Alors, vous ouvrez le journal pour apprendre que 20 Portugais, hommes, femmes et enfants, vivent dans la même pièce, un taudis dégoûtant et une photo, c'est horrible. Je dis non. Ces gens-là n'ont pas raison de se plaindre. On n'est pas allé les chercher. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes ?
Parmi les rescapés, j'oublie un type quand même qui est un rescapé des cabarets où il n'y a fait qu'une petite apparition à la Galerie 55, c'était Guy Bedos.
À la question, quelle personnalité exprime le mieux ce que vous pensez de la société ? Je vous dis, il n'y avait pas Chirac, il n'y avait pas Jospin, il n'y avait pas... Ils avaient répondu 2% Jean-Paul II, 3% Jean-Marie Le Pen, 10% le commandant Cousteau, 13% Bernard Kouchner, 19% ex aequo l'abbé Pierre et Bernard Tapie, les fameux duettistes, et je n'invente rien, le grand vainqueur de ce sondage était à 23%, exactement le score de Jospin au premier tour, et à ma grande confusion, Guy Bedos. C'est-à-dire l'homme qui est en train de vous parler ce soir.
La carrière de Guy Bedos sur le plan humoristique se divise. Il y a trois parties. Première partie seule, avec un sketch comme Bonne fête Paulette, que lui avait écrit...
Dabadi, après leur rencontre, oui.
Oui, la rencontre, c'est Dabadi était au service militaire, il écrivait les textes pour Michel Arnaud dans une émission qu'elle avait à la télévision française. Elle y avait fait passer Bedos, qui avait déjà fait du théâtre. Dabadi a écrit Bonne fête Paulette, un triomphe. Mm-hmm. Là-dessus, Bedos rencontre Sophie Daubier, il tombe amoureux, il essaye de faire passer, de dire à Sophie, faisons un numéro ensemble. On les voit dans Dragée au poivre, le film qui est un film culte au point de vue humour. Et puis les voilà qui commencent leur vie en commun et à la ville et sur la scène. Et j'avoue que ça, c'est une des plus belles période d'humour que moi j'ai vécu, parce que je n'allais pas voir Sophie Daumier ou Guy Bedos, mais j'allais voir quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire cette bonne femme acidulée, pain bêche, souvenez-vous de la drague qui est un sketch musical, qui a fait aussi un tube.
Les archives du rire.
Qu'est-ce qui il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot, attaque. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous.
Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant.
Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins, celle-là est à ma taille. Elle est pas terrible, mais elle est à ma taille.
Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Comme Metec, on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur. Oh, et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle.
Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est pas ce que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot.
Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con.
Guy Bados, un humoriste à part dans le monde du rire francophone. José Arthur signe ce petit portrait dans le livre Sketch en stock paru aux presses de la Cité. Tel un Claude Nougaro, Guy Bados entre en scène comme un taureau de race entre dans l'arène pour en découdre. Guy Bados, un grand enfant responsable, enfant dénonciateur des faits de société, de toutes les politiques, de tous les racismes, de tous les a priori. Dénonciateur de ce qui lui déplaît, quand ça lui plaît, on l'aime, on le hait, c'est un lieu commun, personne n'est indifférent à Guy Bados. Pas besoin d'en rajouter, de disserter, de disséquer, disons simplement que pour José Arthur, Bados, c'est l'efficacité politique par le rire. Tous les politiciens sont comiques, mais chez Guy, c'est volontaire. C'est un faux méchant, c'est un vrai cruel, et c'est bien fait. Rencontre avec Guy Bados à Morges, le 9 novembre 1988.
Il y aura toujours des gens qui me trouveront méchant parce que, qu'effectivement, je suis pas une tasse de lait tiède. Je dis des choses un peu pointues, comme on dit maintenant, qui peuvent irriter des gens, hein, qui peuvent les... Ce qui est sûr, c'est que je ne cherche pas à blesser les gens dans leur personnalité, en tout cas des personnes privées, etc. Pour ce qui est des personnages publics, hein, c'est des hommes politiques, des gouvernants, etc., et, d'une certaine manière, ou même d'autres, que ce soit des confrères du spectacle, de la télévision, etc. Après tout, je me moque de moi aussi. Hein. Quand on est un homme public, il faut accepter la critique.
La politique et le showbiz sont donc des cibles rêvées pour Guy Bados. Satiriste, il s'inspirait de l'actualité pour créer sa revue de presse. Certaines duraient jusqu'à une demi-heure ou même trois quarts d'heure sur scène. Jusqu'au jour où l'actualité n'intéressait plus Guy Bados. Mais dans les années 80, avec Coluche, Thierry Leluron ou autres des proches, l'humour politique est très important et même certains disent influent.
Certains prétendent qu'ils préfèrent la politique abordée par des gens comme ceux que vous citez, qui sont malheureusement disparus, ou moi, ou d'autres, mais il n'y en a pas tellement, effectivement, qui le font. Et puis il y a tous les caricaturistes, tous les dessinateurs politiques, comme Plantu, comme Cabu, ça, dont je me sens très proche.
Avec les années Giscard, la séparation d'avec Sophie Daumier, Guy Bedos change de registre. Il devient un satiriste. Il n'aime pas le mot chansonnier. Enfin, sa démarche s'apparente à celle des chansonniers. Bedos faisait du one-man show, puis c'est tout. Et puis c'était de la satire politique comme la faisait Lenny Bruce aux États-Unis. Il abordait tous les sujets et il s'en prenait à ceux qui n'étaient pas de son bord. S'en prendre à ceux qui ne sont pas de son bord, c'est gênant. Quand ceux qui sont de son bord arrivent au pouvoir. Alors là, effectivement, il y a eu une petite gêne chez Bedos qui était obligée. Enfin, vous savez la formule de Los Amoal, pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. C'est la formule même de tous les humoristes. Est-ce que vous voyez un humoriste dire du bien du gouvernement en place? Est-ce que...
C'est plus un humoriste.
C'est plus un humoriste, absolument. Bon, donc Bedos, que je tiens pour l'un des plus grands, mais je les tiens tous pour les plus grands, hein. Chacun a son originalité. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir une préférence. Bon, et Bedos a continué une carrière qui reste admirable.
Bonne fête, Paulette. Je vais lui dire à ma femme. Bonne fête, Paulette. Et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. C'est justement, je déteste ma femme. Alors je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, j'aime pas Paulette. Alors, soyons logiques. J'avais pourtant bien précisé à ma mère. Je lui ai dit, je veux pas épouser Paulette. Elle m'a répondu, on parle pas à table.
Vous savez, je crois que c'est Cocteau qui disait aux artistes, aux créateurs, étonnez-moi. Bon, ben, j'essaie de m'étonner moi-même un petit peu, pour ne pas devenir un fonctionnaire du showbiz.
Vous avez senti une évolution dans le rire? C'est différent aujourd'hui qu'il y a 30 ans?
Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, c'est à la fois différent et puis... j'essaie justement de, non pas de prouver, mais de montrer qu'il peut y avoir un fil qui, tout au long d'une vie, est logique et suit quand même une même trajectoire, en reprenant des textes que j'ai écrits ou que mon copain Dabadi a écrits il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qui cohabitent très bien avec les choses plus récentes.
Et la télévision dans tout cela?
Ben, je veux dire, vous savez, la télé, je m'en sers un petit peu comme d'une vitrine, hein. Je suis un petit peu cynique avec la télévision. J'ai compris qu'il fallait y passer parce que pour tout un public, c'est important, c'est le cordon ombilical. Donc il faut garder ce contact-là, je ne cherche pas à me marginaliser. Mais enfin, j'en fais un usage un peu homéopathique. Et encore une fois, je cherche à utiliser... Quand je vais, par exemple, faire mon métier d'homme de scène à la télévision, j'y vais avec beaucoup de méfiance. Pour moi, la télévision, c'est plus un média journalistique, mais ça en aucune façon, ça ne pourra jamais être un théâtre. Jamais.
La vie est une comédie italienne. Buonasera, signore e signori. La vie est une comédie italienne. Tu ris, tu pleures. Tu pleures, tu ris. Tu vis, tu meurs, tu vis. Comédiante, tragédiante, c'est ça, la vie. Il pilone, Federico Fellini. Il pigione, Mario Monicelli. Il fanfarone, Dino Rizzi. Ettore Scola, te voilà.
Nous nous sommes tant aimés. Mes chers amis, mes camarades, rejoignez-moi dans ma parade. Je suis un vieil arlequin mité, fatigué d'avoir trop crié.
Je suis dans la vie un personnage beaucoup plus banal. Je ne cherche pas à faire du spectacle dans la vie. Je ne cherche pas... Autant sur scène, je veux qu'on me regarde et qu'on m'écoute, autant dans la vie, je préfère regarder et écouter. J'ai une vie tout à fait agréable. Bon, je suis peut-être... quelqu'un d'assez émotif, sensible, etc. Bon, enfin, bon, j'ai la chance, d'après des hauts et des bas, d'avoir depuis quelques années une vie très équilibrée, avec une famille, des enfants. J'ai la chance, oui, d'être au fond, de vivre, bien sûr, de façon sporadique, mais de vivre un peu comme des tas de gens, comme monsieur tout le monde.
Buonasera, signore et signori! Auteur, acteur, spectateur, pour un soir, l'espoir. Arrivederci! Arrivederla! Je suis content, vous êtes tous là. Buonasera, signore et signori! A domani, à domani, domani!
La vie est une comédie italienne. Guy Bedos, Théâtre Bobino, 1978. On referme les archives du rire pour aujourd'hui. Vous y avez entendu le journaliste Robert Malin, puis Pierre Richard, Victor Lanoux, André Gaillard, des Frères Ennemis et Guy Bedos. Les rencontres ont eu lieu à Neuchâtel, Fribourg, Morges et Paris entre 1988 et 1997. L'émission et quelques images sont à retrouver dès maintenant et en tout temps sur notre site internet. Au revoir et à bientôt.